Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs encourage un dialogue plus approfondi et plus discret entre les pays signataires de cet accord. Wang Xiang, qui a pris part hier à Bujumbura au 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, précise que c'est pour une meilleure écoute et une meilleure entente entre Kinshasa et Kigali. Plus de 200 corps ont été inhumés hier samedi à Bushushu et Nyamukubi et les recherches se poursuivent encore ce dimanche dans le territoire de Calais au sud Kivu. Ces personnes sont mortes dans des inondations à la suite des pluies diluviennes de ce week-end. On signale aussi l'arrivée dans la zone sinistrée d'une première assistance composée des médicaments, des bâches et des vivres du gouvernement provincial du sud Kivu. L'ambassadeur de l'ONU dans la région des Grands Lacs et l'invité de ce journal, Wang Xiang, a accompagné le secrétaire général des Nations Unies à ce 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'est clôturé hier à Bujumbura. Bonjour à tous, mais avant le développement de sous tous ces titres, notez qu'au Maniema, la situation sécuritaire est préoccupante dans la ville de Kindu ce dimanche. Des coups de feu ont été entendus durant toute la nuit. Selon nos sources, il y a eu affrontement entre des jeunes et des militaires commandos. Ces échauffourées ont causé mort d'hommes, des dégâts matériels considérables, dont le bureau de l'UDPS saccagé, plusieurs blessés et des arrestations. Selon le président de la société civile, cette situation est consécutive au moratoire que le gouverneur intérimaire avait donné aux jeunes dit des groupes d'autodéfense de se faire identifier. Cependant, le maire de la ville, lui, parle sans plus de détails d'insurgés qui ont affronté les forces de l'ordre. La société civile parle de 3 personnes tuées alors que le maire ne reconnaît qu'un mort. Jusqu'en ce moment, la circulation est timide dans la ville de Kindu. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Clôture hier samedi du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à Bujumbura au Burundi. À la fin de cette rencontre, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs a encouragé le dialogue plus approfondi et plus discret pour arriver à mieux s'écouter et s'entendre en vue de trouver un terrain d'entente entre Kinshasa et Kigali et comme avec tous les pays signataires de cet accord pour la paix, la sécurité et la coopération entre la RDC et la région. L'ambassadeur chinois Zhuang Jian est au micro de Fiston Goma.
Les acteurs, ce sont les 13 pays signataires, mais ce que je vois, c'est que l'Union africaine, les autres institutions 40, le reste de la communauté internationale ne relâche aucun effort pour pousser, accompagner, appuyer les pays de la région des Grands Lacs à approfondir cette confiance politique. Et donc, dans le contexte actuel, je pense que c'est par le dialogue, par des échanges plus étroits, plus approfondis, peut-être plus discrets, qu'on arriverait à mieux s'écouter, s'entendre pour trouver un terrain d'entente. Et donc, l'issue, c'est la restauration de la confiance, son approfondissement.
Entre Kinshasa et Kigali.
Entre toutes les capitales. Entre toutes les capitales pour assurer une meilleure mise en œuvre de l'accord cadre, des engagements qui reviennent aux uns et aux autres, comme ce que vous avez cité, le respect de l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui, et après, le renoncement définitif à l'appui à tout groupe armé, à tout groupe armé.
Restons dans cette région des Grands Lacs africains. Depuis la levée des mesures sanitaires liées au Covid-19 au niveau des frontières des pays des Grands Lacs, il se développe entre Goma, Bukavu et Uvira en RDC, une discipline sportive de la catégorie des vétérans appelée communément Vétérans Club. Depuis le mois de janvier dernier, il ne se passe pas un week-end sans que des membres des Vétérans Club de ces 3 villes de la RDC ne se déplacent vers Gisenyi et Changungu au Rwanda, ainsi que vers Bujumbura au Burundi pour livrer des matchs de football. Depuis Bujumbura, retrouvant Fiston Goma.
Djibril Basiluango est logé au quartier Bouiza. Il est vice-président de Vétéran Club Niragongo. Il est à la tête d'une forte délégation de 25 membres de son club de Goma au Nord Kivu. Lui et les autres vétérans ne prennent pas plaisir de venir se divertir à Bujumbura comme ils le font à Gisenyi au Rwanda et vice-versa. À travers les sports au roi, le football, le message est simple, la paix tourne comme le ballon rond. Le VC Nyiragongo a livré un match contre le VC Olga de Bujumbura au stade de l'internat Aîné de Ngagara. Score 2-1 en faveur du VC Olga du Burundi. À côté, on pouvait retrouver ici à Bujumbura le vétéran club Union des Sages venus de Goma et les épaves de Bukavu. On peut estimer qu'ils poursuivent les mêmes objectifs de tourisme au pays de Melchior Ndadaye. Cependant, à entendre parler les uns et les autres, les conditions hôtelières, les coûts de vie, ainsi que les taux d'échange des dollars en francs burundais encouragent les Congolais à venir dépenser ici. Question de s'éloigner un peu de bruit des bottes quotidiens dans leur milieu à l'est de la RDC. Une semaine avant le 11e sommet du mécanisme de suivi, les taux d'échange est passé de 4 500 à 3 000 francs burundais pour acheter un dollar sur le marché noir. De quoi imaginer la quantité de devises américaines que les Burundais ont encaissées en cette période du sommet. Depuis Bujumbura, Fistongo Mamayabala, Radio Kapi.
En Ituri, une cinquantaine de miliciens Mai Mai et 14 de leurs proches ont adhéré au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Selon le bureau provincial du PDDRCS, ils sont arrivés vendredi en provenance d'Opienge, dans la province voisine de la Tchopo. Ils sont cantonnés au site de Diango, à 12 km de Bunia, qui accueille 100 autres miliciens des groupes armés Codeco et du Front patriotique et intégrationniste du Congo FPIC. Tous les autres miliciens qui hésitent encore à rejoindre le programme de désarmement ont été invités à déposer les armes afin de construire la paix en Ituri et dans l'est de la RDC. Isaac Raymond.
Les sites de cantonnement de Diango, dont la capacité d'accueil de 1000 personnes, accueillent pour l'instant environ 170 ex-combattants. Les derniers groupes de 81 miliciens Mai Mai est arrivé vendredi à provenance de Opienge à plus de 450 km de Bunia. Parmi eux, 7 femmes et autant d'enfants, précise le bureau de coordination provinciale des PDDRCS à Ituri. Ces ex-combattants, venus pour certains avec leurs épouses et enfants, sont passés par les différents services du programme pour l'obtention de leur carte de démobilisation. Ils ont ensuite reçu des matelas, couvertures et articles ménagers nécessaires pour leur installation, ajoute la même source. Ils reçoivent des rations alimentaires par jour et de la bouillie au petit déjeuner chaque matin. Ces nouveaux groupes de miliciens s'ajoutent à 90 autres ici des groupes armés Codeco et FPIC qui ont rejoint les sites il y a environ un mois. 10 enfants séparés de ces groupes armés sont pris en charge par l'UNICEF et ses partenaires. Le gouvernement provincial demande à d'autres miliciens de saisir cette opportunité que leur offre les chefs de l'État pour intégrer le programme de désarmement en vue de pacifier l'est de la RDC. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, plus de 200 corps ont été inhumés hier samedi à Bushushu et Nyamukubi et les recherches se poursuivent en ce moment. Une première assistance des médicaments, bâches et vivres du gouvernement provincial du sud Kivu est arrivée sur place le même samedi pour tenter de soulager les rescapés de cette catastrophe de Calais. Une aide qui reste insuffisante au vu du nombre des victimes. L'administrateur de Calais continue à appeler le gouvernement central et d'autres humanitaires à intervenir car la situation est selon lui très déplorable. Maître Archimède Carébois, administrateur assistant de Calais, est joint par Emmanuel et la Mejua Kabédé.
Nous avons entamé les enterrements sur les corps qui ont été retrouvés parce que les corps qui sont encore en disparition sont les plus nombreux que les corps que nous avons enterrés. Nous avons enterré ce samedi plus de 200 corps. Il y a des cas qui sont encore à l'hôpital et des cas graves. Nous avons également reçu dans la soirée la première assistance du gouvernement provincial tel que l'avait promis le gouverneur lors de son passage ici ce vendredi. Nous avons reçu un bateau qui était composé de certains médicaments. Nous avons également reçu quelques vivres et non-vivres en bâche pour nous permettre d'avoir des habitations moins provisoires des familles qui sont restées sans abri. Ce dimanche, nous sommes en train d'acheminer le vivre au lieu du drame. Cette assistance reste insignifiante. Ça ne peut pas contenir tout ce que nous sommes censés couvrir. Donc, il est vraiment impérieux d'appeler le gouvernement central, d'agir le plus vite que possible, appeler les humanitaires. Et comme il s'appelle humanitaire, il est temps d'humaniser avec cette population face à la situation ici à Calais.
De leur côté, les associations culturelles des ressortissants du Sud Kivu vivant à Kinshasa exhortent le gouvernement à déclarer le territoire de Calais sinistré au regard de la gravité des calamités récurrentes dans ce milieu. Dans une déclaration hier à Kinshasa, l'entente des ressortissants du territoire de Calais a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale. Dans ce même élan, l'association des Bashibahavu demande au gouvernement de mettre sur pied un comité de crise chargé d'identifier les besoins des sinistrés sinistrés et de proposer des solutions adaptées à la situation. Écoutez à ce sujet Joseph Nkinzo, président de l'ASBL Chinyabuguma, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le Chinyabuguma ASBL remercie le gouvernement de la République pour avoir pris à bras le corps cette situation, notamment en déclarant une journée de deuil national pour ce lundi 8 mai 2023. Il appelle ses membres à respecter cette mesure, apporter une assistance matérielle et financière conséquente aux personnes touchées, reconstruire les infrastructures endommagées, réparer les services publics perturbés. Le Chinyabuguma appelle le coordonnateur humanitaire et la communauté humanitaire présente à RDC de lancer un appel urgent pour une réponse humanitaire appropriée. Le Chinyabuguma organise une messe y afférente à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce lundi 8 mai 2023 à 16h. Le Bashibahabu vivant à Kinshasa ainsi que les autorités politico-administratives y sont conviées.
Dans le même temps, notez que le trafic est coupé entre les villes de Bukavu et d'Uvira depuis vendredi. La route nationale numéro 5 coupée en deux dans la plaine de la Ruzizi suite aux eaux des pluies. Une situation qui risque de produire des conséquences néfastes si rien n'est fait dans l'urgence. Emmanuel Elamejo Akabedi.
La route nationale RN5 s'est totalement coupée en deux à Kitemesho, entre Luberizi et Bouéguera, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira. Cela fait suite à l'effondrement d'un dalo construit en cet endroit, et c'est avec les eaux de pluie diluviennes qui s'abattent dans la région. Plusieurs camions et voitures qui tentaient de se frayer une déviation dans une zone marécageuse sont embourbés. En dehors de Kitemesho, plusieurs autres têtes d'érosion menacent d'effondrement les ouvrages d'art entre Kamaniola et Uvira en ce moment. Et pourtant, il y a quelques jours, la direction provinciale de l'Office de route Sud Kivu avait fait une alerte sur les dangers de Kitemesho. L'ingénieur Anissé Kakessa, directeur provincial de l'Office de route, proposait au gouvernement central de financer les travaux d'au moins 1 km par trimestre pour maintenir le trafic. Signalons que la route nationale RN5 est d'un intérêt économique capital dans la sous-région. Elle relie le sud Kivu aux provinces de Tanganyika et du Haut-Katanga, mais aussi à la République du Burundi et de la Tanzanie par le port de Kalundu. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Retour en Ituri, la situation humanitaire est préoccupante sur le site des déplacés de Savo dans le territoire de Djougou. Selon le comité de ces déplacés, 18 personnes dont 11 enfants sont mortes de malnutrition au cours du mois dernier. Ils se disent asphyxiés par les groupes armés qui limitent leur mobilité et les empêchent d'accéder à leurs champs. Ils déplorent également la suspension de l'aide humanitaire depuis environ une année par les humanitaires, une situation qui accentue leur vulnérabilité. Isaac Raymond.
Plus de 25 000 déplacés d'ici des Savo sont en détresse. La présence des miliciens qui sont visibles dans les alentours du camp les empêche de sortir pour se rendre dans leurs champs, chercher de quoi se nourrir ou d'exercer des activités journalières pour leur survie. Selon les comités des déplacés, plusieurs tentatives d'attaque de leur site par ces hommes armés ont été déjouées par les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC. Conséquence de ces menaces, les déplacés vivent dans des conditions difficiles. 11 enfants et 7 personnes âgées sont mortes de malnutrition au mois d'avril dernier. La crise alimentaire s'est accentuée avec la suspension de l'aide alimentaire depuis 11 mois par les humanitaires. Les responsables du site disent craindre les pires si cette situation persiste. Emmanuel Ndalo.
On faisait des par jour, mais pour le moment, il y a trop de sécurité dans la zone. Il n'y a pas moyen de se débrouiller. Il n'y a pas même des lieux où on peut même aller chercher des légumes. À cause de quoi, leur présence est toujours visible. Ils préparent toujours l'attaque à tout moment, mais c'est vraiment Dieu seul qui les appelle. De ne pas arriver à nous attaquer. Nous sollicitons des PAM de venir en aide.
Des sources humanitaires indiquent que plusieurs zones sont inaccessibles dans les territoires des Djougou à cause de l'activisme des groupes armés. Les autorités militaires, quant à elles, disent avoir lancé les opérations contre les miliciens réfractaires au processus de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toutes les dispositions sont déjà prises dans la province éducationnelle Nord-Kivu 2 pour le bon déroulement des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 qui démarre ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Assurance faite ce dimanche par le directeur de cette entité éducationnelle dans la partie Grand Nord, Salomon Chalumo Tsambali, affirme que les inspecteurs sont déjà affectés dans les différents centres pour les derniers réglages. Pour le cas des élèves finalistes déplacés venus des territoires de Beni et Lubero, le prophète de l'EPST Nord-Kivu 2 rassure que rien n'est à craindre. Salomon Chalumo Tsambali est au micro de Grévis Salomon.
Les dispositions sont déjà prises dans tous les centres. On a déjà déployé les inspecteurs sur le terrain et tout est en marche. De ce qui concerne les dispositions sécuritaires, nous avons essayé d'entrer en contact avec les agents de l'ordre. Il y a des administrateurs des territoires, il y a des maires des villes, il y a des commandants de la police ainsi que les FARDC qui sont chargés de sécuriser les enfants en chemin vers les centres des examens d'État. De ce qui concerne les enfants déplacés, nous avons essayé d'identifier ces enfants. Il a été instruit au gestionnaire de demander au préfet des études de les récupérer sans condition. Et jusque-là, nous avons enregistré plus de 210 candidats qui sont en situation difficile, en situation de déplacement. Et ces enfants-là sont exonérés des frais des examens d'État. Aucun finaliste ne va rater les examens d'État. Les enfants ont déjà les macarons, les examens sont issus. Ils sont en train de vérifier leurs identités et leur salle de classe où ils vont passer les examens d'État. Pour les candidats, je les demande de travailler correctement et je les souhaite 100% de réussite.
Alerte à la prison centrale de Makala où la population carcérale a atteint le seuil de l'insupportable depuis hier samedi 6 mai. La Valve renseigne 12 000 détenus auxquels les autorités attendaient ajouter une centaine de nouveaux transférés samedi soir en provenance des différents cachots de Kinshasa. C'est insupportable, il faut drastiquement désengorger la prison, a lancé un pénitencier à l'équipe de Radio Capi en visite à la prison. Cette équipe a trouvé des détenus qui racontent leur misère, la nourriture mal préparée, offerte sans aucun respect des normes, l'encombrement des pavillons où ils passent la nuit à même le sol.
L'invité.
Notre invité, c'est l'ambassadeur de l'ONU dans la région des Grands Lacs, Wang Xian, et basé à Addis Abeba en Éthiopie, où l'accord cadre entre la RDC et la région a été signé en février 2013. Il a accompagné le secrétaire général des Nations Unies dans les assises du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, dont le sommet s'est clôturé hier à Bujumbura, au Burundi. On l'écoute au micro de Fiston Goma.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Bonjour.
Vous avez quel sens à donner à cette dynamique au niveau de la sous-région des Grands Lacs à partir du 11e sommet de l'accord 4 qui se tient aujourd'hui à Bujumbura?
J'ai briefé le Conseil de sécurité il y a quelques semaines. Comme vous le savez, il y a eu cette importante réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui a eu lieu le 17 février. Les consultations que j'ai faites au cours des dernières semaines, je dois avouer que c'est un sentiment mitigé, mélangé de l'inquiétude vis-à-vis de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, mais mélangé aussi d'un optimisme de voir les pays africains, l'Union africaine, les pays signataires de l'accord cadre qui ont réagi à temps pour monter tous ces efforts politiques et diplomatiques avec les deux processus en cours et après avec le lancement de la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. La situation, elle est inquiétante. Cette situation nous interpelle. Comment, 10 ans après la signature de l'accord cadre, l'instabilité, l'insécurité reste toujours récurrente dans la région des Grands Lacs, malgré des progrès importants dans la mise en œuvre de cet instrument juridique très important. Les différents interlocuteurs, qu'ils soient de la région des Grands Lacs ou les acteurs externes, sont unanimes pour dire que l'accord cadre d'Addis Abeba reste central, reste le document le plus important pour contribuer à la recherche d'une solution durable
à tous ces problèmes politiques, sécuritaires et aussi de développement durable pour les pays de la région des Grands Lacs. Mais aujourd'hui, le président sud-africain Ramaphosa a lancé le 17 février à Addis cet appel sur la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, un travail qui a complètement sa pertinence. Ce travail nous permettra de faire une évaluation, une revue de ce que nous avons fait, pays signataire de l'accord cadre, les institutions 40, et après le reste de la communauté internationale, et après aussi faire un bilan des leçons à tirer. Et c'est sur la base de ces évaluations que les pays vont travailler, les différentes parties vont travailler ensemble pour voir comment assurer une mise en œuvre plus effective de cet accord cadre, de ce document juridique très important. Et que ce soit ici ou à Addis ou dans les autres capitales, un autre son que j'ai entendu, c'est que l'accord cadre est le document central qui couvre tous les processus actuels, tous les efforts politiques et diplomatiques actuels. Et donc, on voit par là l'importance de ce document et après l'importance de ce travail de revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Aujourd'hui, les relations entre Kinshasa et Kigali sont brisées pratiquement à cause de la présence de M23 en RDC, alors que selon l'accord cadre, dans l'un de ses articles qui exige aux membres de la non-agression et le non-soutien des groupes armés pour déstabiliser un pays voisin. Comment comptez-vous faire au niveau de la sous-région pour réparer cette relation brisée entre les deux capitales?
La solution durable des problèmes de la région des Grands Lacs, qu'il soit politique et sécuritaire ou concernant les perspectives de développement dans une logique d'intégration régionale, de coopération régionale plus forte, repose sur un élément clé. C'est la restauration ou l'approfondissement de la confiance politique entre tous les pays signataires de l'accord cadre.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Je vous en prie. Merci.